par l'envoi, que ça soit par la prière, que ça soit par cette relation glorieuse. Dites-vous une chose, ce week-end, il y en a qui, cette semaine, il y en a qui sont sortis dans la rue, dans d'autres aspects de la semaine, certains se sont occupés de la logistique de la semaine. Je pense à ces chères sœurs qui étaient là présentes chaque jour pour nous faire à manger, pour qu'on puisse même bien manger. Je peux vous dire que vous êtes bénis d'avoir mangé comme ça. Vous seriez venus à Montreuil, vous auriez vu ce que c'est que la vie, les amis. Mais la réalité, c'est que les personnes qui sont venues ici ont participé à l'effort missionnaire. Vous savez, sur le champ missionnaire, on a besoin d'informaticiens. Sur le champ missionnaire, on a besoin de logisticiens. Sur le champ missionnaire, on a besoin de médecins. Ma belle-sœur vient de terminer son diplôme de médecine. Elle est partie tout de suite après un an à l'IBG avec mon beau-frère, qui lui avait un diplôme d'ingénieur agronome, qui avait une excellente situation. Et tous les deux s'en vont avec un maigre soutien dans le nord du Togo pour servir un hôpital et prêcher l'évangile en même temps, dans un contexte ultra-musulman. On a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens qui sont spécialistes dans leur métier. On a besoin de toutes sortes de personnes qui peuvent être en périphérie de l'action missionnaire, vous savez. On a besoin de troupes qui soient des troupes techniques, des troupes logistiques qui puissent appuyer les missionnaires qui prêchent l'évangile. Mais il y a une chose qui est sûre. Dieu n'a pas besoin de nous, et c'est certainement pas notre désobéissance qui va empêcher Dieu d'accomplir son plan, à savoir que toutes les nations de la terre entendent parler de Christ, que quelques individus de chaque peuple de cette terre soient sauvés, et qu'enfin ils reviennent. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage, à tous les peuples pour leur servir de témoignage, et alors viendra la fin. Et quand tous les peuples auront été évangélisés, voilà un des signes des temps qui fera que le Seigneur reviendra. Un des points qui fera que le Seigneur reviendra. Donc la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Elle va s'accomplir à la lettre. Mais la grande question c'est, est-ce que ça sera avec toi ou est-ce que ça sera sans toi? Est-ce que ça sera avec ton église ou est-ce que ça sera sans ton église? Quel sera ton impact dans ce processus de voir Dieu souverain accomplir son œuvre? Est-ce que tu seras de ceux qui lèvent des ouvriers et qui concourent à l'accomplissement de cette grande mission? Ou est-ce que tu seras, comme lors d'un match de foot, dans les tribunes en train de manger des pop-corns et de boire de la bière? La deuxième chose que j'aimerais soulever, c'est que la souveraineté de Dieu s'exerce aussi au travers de la persécution. La souveraineté de Dieu s'exerce aussi au travers de la persécution. Et il y a une excellente raison pour laquelle j'ai commencé en lisant un passage de Acte 1 et je me suis arrêté ensuite au passage de Acte 8. Parce que dans Acte 1, vous avez cette promesse qui a la forme d'un commandement, mais qui est une promesse qui dit « Vous serez mes témoins et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Sauf que quand vous en arrivez à l'épisode d'Étienne, vous les voyez toujours pas sortir de Jérusalem. Le fait est que dès le commencement, Dieu leur a dit « Vous irez en Judée, vous irez à Jérusalem, vous irez en Samarie, vous ferez ces choses-là et vous le ferez ». Mais vous les retrouvez dans Acte 7, ils n'ont toujours pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, l'église de Jérusalem a beaucoup cru. Après la Pentecôte, 3000 se sont convertis, puis ensuite chaque jour le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés, une croissance qui était durable, stable, la communauté de biens. Ça avait l'air d'être un modèle primitif d'église qui semblait tellement bien tourné que parfois on a tendance un peu à l'idéaliser, n'est-ce pas? Vous avez dans certains mouvements cette propension naturelle à se dire « Oh, c'était tellement bien au début, ils vivaient vraiment un vrai truc, et nous on a perdu toute cette puissance. » Détrompez-vous. Acte 5, vous voyez un péché grave qui est commis, un mensonge contre le Saint-Esprit. Ananias et Saphira qui auraient pu garder le bien pour eux, mais qui ont décidé de faire comme s'ils allaient donner à la communauté de bien, vivre pour l'apparence, et faire en quelque sorte un christianisme nominal d'apparence, pendant que derrière ils allaient garder le bénéfice pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Punition, Dieu les frappe durement, exemplairement, de manière à ce que tout le monde en éprouve de la crainte. C'est ce qui se passe dans Acte 5. C'était pas si idéal que ça, l'église primitive. Puis Acte 6, vous avez un deuxième incident. Figurez-vous qu'il y avait deux types de juifs, grosso modo, ça allait plus loin que ça, mais vous aviez des juifs qui étaient de la dispersion, d'arrière-plan hellénistique, ils parlaient grec, et c'est pour eux qu'on avait fait une traduction spéciale quelques temps auparavant qui s'appelait la Septante. Et vous aviez des juifs qui avaient toujours vécu dans un contexte palestinien, et qui eux parlaient araméen et hébreu. Ces deux-là ensemble, en fait, étaient du même peuple, mais ne parlaient pas la même langue. C'est un petit peu comme quand vous comparez les Allemands de l'Ouest et les Allemands de l'Est, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir parfois des relations entre eux. Vous avez un peuple qui est les Prussiens, l'autre qui est les Allemands. Là, vous aviez le même peuple, mais vous aviez des tensions entre eux. Et vous avez certains hellénistes qui commencent à dire « Oui, lorsque vous donnez de la nourriture à nos veuves, bah les nôtres, elles sont négligées. » Et aux hellénistes, vous leur donnez plus. Grosse tension. Alors à ce moment-là, les apôtres, qui sont des gens très sages, vont prier et vont décider d'établir des diacres. Et quand ils ont choisi d'établir des diacres, ils n'ont pas choisi ceux qui faisaient les meilleurs nems, ils n'ont pas pris non plus ceux qui faisaient la meilleure bouffe, ils n'ont pas choisi celui qui faisait le mieux le ménage, ils ont pris des hommes qui étaient remplis de l'esprit et qui aimaient le Seigneur. Chers amis, servir dans l'église, même pour faire le ménage, nécessite une grande qualification spirituelle, celle d'être uni au Seigneur par son esprit et par la mort de Christ à la croix. Ils vont choisir ces diacres qui vont servir aux tables pendant que les apôtres vont se concentrer sur la parole de Dieu, mais on voit que ces diacres ne s'arrêtaient pas à servir aux tables. Ainsi, Philippe commence à réfuter avec beaucoup d'ardeur les juifs de la synagogue dite des affranchis, des hellénistes probablement, et tout de suite ils le mettent en accusation. Étienne, pardon, pas Philippe, passe devant le Sanhédrin et il est finalement lapidé, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et le jour où Étienne est lapidé, Dieu retire à l'église son diacre le plus brillant, le plus zélé, le plus compétent, et il dit « Je vous le prends !» Et il y eut ce jour-là une grande persécution, à tel point que tout le monde a dû quitter Jérusalem, à l'exception des apôtres. Une église de plusieurs milliers de personnes, une énorme méga-church comme on n'en fait plus qu'aux États-Unis aujourd'hui. Seulement 12 personnes restent et tout le monde est dispersé par la souveraineté de Dieu. La promesse de Acte 1, verset 8, chers amis, ne trouve pas son accomplissement tout de suite. Il y a un contexte immédiat, consécutif au meurtre d'Étienne qui nous montre que Saul était présent à ce moment-là, qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne, que l'église de Jérusalem, tout de suite, elle est persécutée et dispersée, et que tout de suite, Saul devenant un des principaux ennemis de l'église, tous les chrétiens s'en vont à Damas, dans la Samarie et dans toute cette zone-là. Et alors commence l'évangélisation du monde. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que l'évangile se serait répandu de cette manière-là s'il n'y avait pas eu cette persécution-là? Certainement pas. Cette persécution permise par Dieu est l'instrument qui a amené les disciples à annoncer la parole de l'évangile selon le plan que Dieu avait décidé. Je ne suis pas en train de vous dire que cette persécution était bien. La qualification morale de l'acte, la persécution, était le mal. La persécution en soi n'est pas souhaitable, ne désirez pas être persécuté. Il y avait un père de l'église qu'on appelait Ignace, qui souhaitait avec joie être martyrisé. Je ne crois pas qu'on souhaite avec joie être mis à mort. Quand on vous persécutera, fuyez, dit le Seigneur. Ne la cherchez pas, la persécution. Mais quand elle vient et que nous ne pouvons pas l'esquiver, c'est un moyen que Dieu utilise pour transformer les circonstances, changer le mal en bien et accomplir son plan, qui s'accomplit toujours à la lettre. L'église de Jérusalem a été secouée. Et c'est de cette manière-là que le monde a entendu parler de la bonne nouvelle de Christ. Dans un certain sens, vous pouvez comparer ça avec un bocal de vinaigrette. Je ne sais pas si vous aimez acheter la vinaigrette toute prête. Moi, je trouve ça dégoûtant. Donc, généralement, je la fais moi-même. C'est pas très compliqué. 3 cuillères à soupe d'huile pour 1 cuillère à soupe de vinaigre. Ça, c'est le ratio. Vous pouvez mettre un peu de vinaigre de noix, c'est toujours pas mal. Prenez des épices et mettez un peu de moutarde ou un peu de mayo, de la crème fraîche si vous voulez adoucir. Bref, si vous voulez la recette, venez me voir après le culte. Ça fait partie des questions qu'on se pose le soir. Mais la vinaigrette, le truc, c'est quand vous la stockez, parce que vous en avez fait trop, vous la mettez au frigo. J'espère que vous faites ça, sinon c'est encore pas bon. Vous la mettez au frigo et ce qui se passe, c'est que la vinaigrette, elle va faire du dépôt et les choses vont tourner au fond. Ça va tomber au fond, de sorte que quand vous allez vouloir réutiliser votre vinaigrette pour qu'elle ait du goût sur votre salade, vous allez la secouer, shakeriser, appelez ça comme vous voulez. Mais dans un sens, plus vous restez dans votre local, et plus le dépôt va se créer au fond. Et même si vous avez gardé le bon dépôt, à un moment donné, il faut que ça se diffuse. Parce qu'une théologie qui ne sert à rien est une théologie morte. Je connais tes œuvres, je sais que tu as de l'amour pour moi. De l'amour pour ma théologie. Si je dois paraphraser ce que dit Jésus à la première église. De l'amour pour la saine doctrine. Tu sais discerner ceux qui sont des faux prophètes. et qui se présentent comme des anges de lumière. Tu sais voir ceux qui disent la vérité. Tu sais reconnaître ces choses-là. Tu es enraciné, fondé doctrinalement. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alors repens-toi donc. Sinon, je viendrai et j'effacerai ton chandelier. Une théologie qui n'est pas pratique n'est qu'une théologie qui sert à rien. Vous pouvez avoir toute la bonne doctrine du monde, si à un moment donné ça vous pousse pas à aller dans la rue ou partager l'évangile avec ceux qui vous entourent, il y a un problème quelque part. Une théologie biblique est une théologie missionnaire ou elle n'est pas une théologie du tout. Un chrétien dans un local, c'est comme du sel dans un bocal, vous vous souvenez ? Ça sert à rien si ça reste enfermé. Et il arrive des moments où Dieu permet des circonstances qui vont secouer le bocal de vinaigrette. Il arrive des moments où Dieu permet que l'Église soit ébranlée dans ses fondements pour qu'enfin les chrétiens puissent donner le goût qu'ils ont été appelés à être, répandre cette bonne odeur de Christ dans le monde. Troisième chose que je voudrais noter maintenant, c'est que la souveraineté de Dieu s'exerce d'une manière générale dans la souffrance. La souffrance est un don spirituel qui vient avec la foi. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu que de souffrir. Philippiens 1, 29, car elle vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Tu souhaites avoir des cadeaux pour Noël, Dieu te donne un joli cadeau dès le début de ta conversion et ça va te poursuivre tout du long de ta vie que tu vas souffrir. C'est normal que tu souffres. C'est normal que tu sois affligé. C'est un don, ça vient avec la foi, c'est une grâce de souffrir. C'est quelque chose qui est nécessaire à ta vie. Autrement, tu prendrais plaisir dans ce monde, tu voudrais y rester attaché et tu ne voudrais pas quitter cette tente et tu ne pourrais pas dire comme Paul, comme Pierre, je sais que je la quitterai subitement et comme Paul qui dit j'ai le désir d'être avec Christ, c'est pour moi le meilleur. Qu'est-ce qui se passerait si tu ne souffrais pas? Tu prendrais plaisir dans ces choses qui ne sont rien en comparaison de ce que la vie à venir peut te promettre. C'est de la boue, c'est une flaque de boue avec de l'eau de pluie et du pipi de chien dedans. Voilà ce que c'est que ce monde par rapport aux choses éternelles qui nous sont promises en Jésus-Christ. Rien ne peut nous rassasier ici-bas et pourtant nous y prendrions goût. On serait prêt à manger nos propres excréments, excusez-moi de vous dire ça. Voilà l'image des persécutions que vous avez dans le livre des Chroniques et le livre des Rois quand les gens sont enfermés dans leur ville et qui mangent ce qui sort de leurs propres entrailles. C'est ce qu'on vit dans ce monde, c'est une analogie. Et dans le ciel, vous mangerez la vraie manne céleste. Et si vous ne souffriez pas, vous prendriez plaisir dans ces choses mêmes qui font partie de ce dégoût que l'on devrait avoir de ce monde. Il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. La souffrance, selon la souveraineté de Dieu, vient avec l'évangélisation. Si vous espérez éviter la souffrance à tout prix, on risque soit de mal évangéliser, soit de ne pas évangéliser du tout. Je pense à cette traduction de la Bible en turc, qui récemment a fait polémique. Et Wycliffe a été épinglé. Vous savez que Wycliffe fait un excellent travail, mais sur la traduction de la Bible en turc, il y a une mini-polémique qui a été déclenchée parce que les personnes qui étaient présentes dans ce pays avaient été ébranlées par un massacre qui avait lieu dans une librairie chrétienne. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Deux missionnaires allemands et un turc avaient été tués, torturés à coups de couteau et avaient été lardés, quoi, en fait, de couteau, puis avaient été laissés pour mort, puis étaient décédés dans une lente agonie à cause de leur témoignage de l'évangile. Et dans ce pays, la Wycliffe, en réaction par rapport à ça, a pris la décision de faire une traduction de la Bible où, pour ne pas créer de polémique, on avait changé l'expression « fils de Dieu » en « bien-aimé ». Bien-aimé. Partout où vous trouviez « fils de Dieu », ils changeaient la traduction et ils mettaient à la place le « bien-aimé ». Quel était leur désir ? Ne pas susciter de controverse. Et derrière, l'arrière-plan, c'était ne pas être persécuté. Regardez toutes les prédications apostoliques. Systématiquement, une des premières choses que Paul ou Pierre ou les apôtres disent lorsqu'ils parlent de Jésus-Christ, c'est de le nommer fils de Dieu. Avec Hicham, on a fait la vérification de ces choses-là. Systématiquement, vous avez cette dimension de fils de Dieu. On serait tenté, nous, on travaille parmi les musulmans depuis des années, Hicham depuis plus longtemps que moi. Systématiquement, c'est ce qui fait polémique. Vous voulez éviter la polémique, vous voulez éviter les embrouilles, vous voulez éviter la souffrance, ne parlez pas de fils de Dieu. Mais si on ne parle pas de fils de Dieu, on ne parle pas de l'évangile. S'il y a des notions qu'on esquive, on esquive carrément le message de fond de l'évangile. L'autre chose que j'aimerais citer en exemple, c'est les développements d'événements d'évangélisation. Aujourd'hui, on fait de l'évangélisation en mode projet. L'Église primitive ne faisait pas d'évangélisation en mode projet, elle faisait de l'évangélisation en mode de vie. C'est une sacrée différence. Aujourd'hui, on lance des campagnes, et c'est une bonne initiative que de lancer des campagnes, il faut bien qu'on transmette une vision à un moment donné. Aujourd'hui, on fait des conférences, c'est une bonne initiative de faire des conférences, il faut bien qu'on réponde aux aspirations des personnes qui cherchent à avoir des réponses par rapport à des questions existentielles, comme pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, comment concilier ça avec l'idée de Dieu. Aujourd'hui, on fait plein de choses, des événements, des choses qui puissent attirer les foules qui vont écouter l'évangile. Aujourd'hui, on se déhanche et on se démène dans tous les sens pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. On est en mode projet. Mais l'Église primitive était en mode de vie. L'évangile était une marque qui faisait partie de leur quotidien. L'évangile était un élément qui faisait partie de leur ADN chrétien. Vous retrouvez de la littérature rabbinique du 1er siècle et vous voyez qu'il y avait des questions qui ressortaient, qui étaient des questions du quotidien, qui étaient nécessairement liées au contact qu'ils avaient avec le judaïsme, avec le christianisme. Systématiquement, vous avez des questionnements qui sont posés sur la messianité de Jésus dans les 20-30 années, la littérature rabbinique qui a suivi la mort de Christ. Toujours, 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 la question du christianisme était d'actualité dans ces zones-là. Vous regardez comment vivaient les apôtres, vous regardez comment vivait l'Église primitive, vous regardez comment l'Église d'Antioche a été fondée, vous regardez comment à Damas, il y avait déjà des chrétiens quand Saul s'est rendu là-bas pour essayer d'enfermer les chrétiens qui étaient sur place, voire les tuer derrière. Vous regardez simplement comment le christianisme, dans un contexte de persécution, dans un contexte de désorganisation totale, s'est répandu comme une traînée de poudre, et vous avez compris que c'était leur mode de vie, et certainement pas un mode projet. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, ils organisaient des conférences ? Est-ce que vous croyez qu'ils collaient des affiches ? Est-ce que vous pensez qu'ils allaient distribuer des tracts ? Est-ce que vous croyez que l'évangélisation qu'ils vivaient était autrement que par le relationnel et vécu dans leur quotidien ? Regardez Paul ! Il arrive dans une ville, il est à Athènes, il connaît personne, une culture complètement différente que tout ce qu'il a expérimenté jusqu'ici. Entouré de philosophes, il témoigne chaque jour sur la place publique. C'était pas un mode projet, c'était un mode de vie. Vous savez, dans la salle arrière, on vous a fait écrire les noms. Alors, on n'a pas suivi forcément ça comme on l'aurait dû, mais on vous a fait écrire les noms de chacun de vos contacts lors de vos retours de sortie d'évangélisation. Ce qui est frappant quand on fait cet exercice, c'est de faire une petite comparaison entre le nombre de contacts que vous avez quand vous faites une conférence et le nombre de contacts que vous avez en sortant juste vous tout seul pendant 2 heures. Si vous avez 10 bons contacts, 20 bons contacts après une conférence, vous êtes généralement heureux. Mais quand vous sortez dans la rue, vous avez toujours des bonnes discussions. Et parfois, en 2 heures, vous avez 10, 15 bonnes discussions. Vous avez le temps de prêcher l'évangile à des personnes. Nous prêchons selon le modèle des actes. Et si nous le faisons, nous serons vraiment dans une dynamique où l'évangile sera prêché selon l'évangile, par la parole de la prédication, et ça sera efficace. Faites-le dans vos oikos, faites-le dans votre quotidien, faites-le dans vos familles, faites-le au milieu de vos amis. Ne vous limitez pas simplement à quelques aspects de l'évangélisation qui sont des projets et qui ne seront que des one-shot éphémères, qui seront sans lendemain. Vous voulez vivre l'évangile pleinement, faites-le pleinement. Simplement dites-vous une chose, le composant essentiel qui liera toutes ces choses-là, ça sera la souffrance que vous aurez pour le nom de Jésus. Il n'y a pas photo sur le fait que nous sommes appelés à souffrir pour proclamer l'évangile. Quatrième chose, nous prêchons Christ crucifié. C'est un Christ ayant souffert sur la terre que nous prêchons. C'est un peu normal qu'il souffre, hein. Dans un monde qui est rempli de souffrance, comment est-ce que Dieu pourrait venir racheter qui que ce soit sans expérimenter la souffrance lui-même ? Nous prêchons un Christ ayant souffert sur la terre, 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. On n'est pas en train d'apporter au monde un médicament antidouleur, on n'est pas en train d'apporter au monde une histoire agréable, on n'est pas en train d'apporter au monde un paquet de bonbons Haribo parce qu'ils ont eu une déception et que le sucre, ça te remonte ton taux de je ne sais quoi qui va te sécréter une hormone dans le cerveau qui va te rendre plus heureux. On n'est pas venu proclamer ça au monde. On n'est pas venu apporter au monde un soulagement dans leur quotidien qui consiste à les soulager sur les choses de cette terre. On est venu apporter au monde un message de soulagement éternel. On n'est pas venu dire aux gens que dans cette vie, ils seront nécessairement plus heureux. On n'est pas venu dire aux gens que dans cette vie, ils seront positifs. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est subtil. On a tous envie d'être heureux. On a tous envie de vivre un vrai truc. C'est vrai, quoi. Après tout, avec toutes les séries télévisées qu'on a vues, et Dallas, et j'en passe, et des meilleurs, on aimerait bien ressembler à tous ces gens-là, qui ont les dents bien blanches, et qui ont un teint bien rose, et qui ont tous une super grosse bagnole, et qui vont mener une riche et brillante vie, exactement comme le mec dans Luc 16, pendant qu'il y en avait un autre qui était couché à la porte, et dont les chiens venaient lécher les ulcères. Mais regardez lequel des deux s'est retrouvé dans le ciel. Pas celui qui était le plus heureux dans cette vie. Parce que glorifier les choses que nous avons sur cette terre, c'est glorifier les dons plutôt que de glorifier celui qui donne. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et si on présente aux gens une vie heureuse sur cette terre, c'est possible qu'il l'ait. Personnellement, j'ai des gros doutes si tu vis l'évangile pleinement et radicalement. Mais c'est possible qu'il l'ait. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'en se tournant vers Jésus-Christ, il mène une vie difficile et désagréable, avec la joie profonde que donne le Saint-Esprit et la possibilité éternelle de la vivre pleinement telle que Dieu nous la propose. Notre demeure n'est pas ici. Alors n'allons pas prêcher un évangile aux gens qui est « Votre demeure est là ». Ce n'est pas ce qu'on prêche. Nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons Christ ressuscité, nous prêchons une réunion avec lui et ça ne se passera pas ici-bas. Ici, ça sera juste les arts, la première résurrection. La deuxième, ça sera dans le ciel. Nous ne sommes pas en train d'apporter au monde ce médicament antidouleur. Nous parlons aux gens que nous rencontrons de celui que Dieu a souverainement destiné à souffrir et qui nous envoie souverainement témoigner de ses souffrances, de sa résurrection, de son élévation, de la joie que nous avons en lui. Il y a un grand présupposé qui dit que aujourd'hui, si on veut atteindre les gens qui nous entourent, il ne faut pas qu'on soit austère. C'est vrai que le christianisme a longtemps vécu de cette image d'austérité qui colle dans un certain sens à l'arrière-plan catholique que notre pays il a, avec des gens qui souriaient pas beaucoup, des messes en latin, etc., etc., très traditionnelles, et une dimension d'austérité, voire moraliste, légaliste, où on dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Bref, le but c'est pas de parler de ça. Et donc, on en arrive à un raisonnement qui finit par dire que c'est en voyant qu'on n'est pas austère que les gens vont avoir envie de se tourner vers Jésus. C'est en voyant qu'on n'est pas des gens qui sont des grenouilles de bénitier ou des bigots de sortie d'église le dimanche matin que les gens vont se rendre compte que finalement, bah, c'est acceptable d'être chrétien, c'est bien d'être chrétien, c'est quelque chose de bien d'être chrétien, quoi. En fait, on est comme tout le monde, quoi. Voire même, des fois, on va un peu plus loin, on se dit, c'est en voyant nous amuser que les gens vont voir vraiment la joie qu'on a en Jésus-Christ. C'est en nous voyant nous détendre, c'est en nous voyant vivre comme les autres que les gens vont voir que le christianisme, c'est un truc acceptable. Il faut que ça donne envie, quoi. Il faut que ça donne envie, le christianisme. Franchement, c'est partiellement vrai. Franchement. Parce que si vous tirez la tronche tous les quatre matins, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas avec votre christianisme. C'est sûr que si vous êtes tout le temps malheureux et déprimé, c'est sûr que le Seigneur Jésus, certainement, il est à l'œuvre, mais il y a peut-être quelque chose qui manque quelque part. Maintenant, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez, le fleuve immense de la vie chrétienne, il y a des moments où il passe sous terre. Mais il finit toujours par ressortir plus fort, avec des flots qui sont plus fougueux, et il finit toujours par se jeter invariablement à la fin dans une mer éternelle de grâce. Par conséquent, oui, il y a une dimension. Nous sommes appelés à montrer que nous sommes les gens les plus heureux du monde. Vous croyez cela, que vous êtes les gens les plus heureux du monde, oui ou non? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous souffrez? Est-ce que vous souffrez? Amen. Vous êtes les gens les plus heureux du monde? Amen également. Mais ce n'est pas en disant aux gens que nous sommes comme eux que nous les gagnerons. Quel est l'intérêt de devenir chrétien si ça ne change rien? Je vous redis cette phrase que je vous ai dit en début de semaine. L'Église a ceci de spécifique qu'en étant différente du monde, invariablement, elle l'attire. C'est en voyant notre soumission au Seigneur, au milieu de la souffrance, que les gens verront ce qu'un chrétien a de différent du monde. C'est en voyant notre obéissance, notre abaissement, notre attitude au milieu de la souffrance, que les gens verront ce qu'on a de différent du monde. Watchman Nee rapporte cette histoire que vous avez déjà probablement entendu parler. J'aime bien citer Watchman Nee quand je vais dans des églises chinoises, ça fait genre je connais des Chinois à plein, quoi. Watchman Nee, il raconte qu'il y avait un chrétien qui travaillait dans des rizières Et vous savez, les rizières en Chine, certaines sont organisées via des strates. Et donc vous avez l'eau qui se trouve en bas, et vous avez donc des strates avec des différentes zones en hauteur de culture de riz. Et généralement, ce que vous faites, quand vous manquez d'eau dans les strates les plus élevées, vous allez le matin puiser de l'eau abondamment. Alors vous savez en Chine comment ça se passait à l'époque, vous aviez un morceau de bois avec un seau de chaque côté, on se plonge d'un côté, on se plonge de l'autre, on remonte jusqu'en haut, et puis on verse de l'eau dans l'abreuvoir, un abreuvoir qui était généralement fait en pot, et on faisait ça plusieurs fois par jour. Généralement, c'était l'opération la plus pénible, particulièrement pénible pour ceux qui étaient les plus pauvres, et qui disposaient par conséquent de la strate qui était la plus élevée, puisqu'ils devaient faire tout le trajet pour remonter à chaque fois, pour déposer de l'eau. Il y avait un chrétien qui était pauvre, et qui avait une des strates les plus élevées. Et tous les matins, il allait puiser de l'eau, et il allait verser de l'eau dans son abreuvoir. Le gars qui était en dessous de lui était un gros malin. Il attendait que le chrétien arrive plus tôt le matin pour remplir son abreuvoir d'eau, et ensuite il perçait son abreuvoir, plaçait le sien en dessous, et récupérait toute la flotte que le chrétien avait emmagasinée. Personnellement, n'étant pas chinois, si on m'avait fait ce coup-là, je pense que j'aurais appelé Gabriel et on l'aurait défoncé. Mais Gabriel, il n'est pas violent. Mais ce chrétien était un petit peu plus modéré. Il a été voir un frère, ils ont prié ensemble. Et avec le frère, ils ont prié pour cet homme. Et ils ont demandé au Seigneur la solution. Comme c'est bon quand on demande au Seigneur la solution, parce que souvent il forme ses projets dans notre cœur et nous les amène à les accomplir. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, le chrétien a commencé chaque matin à puiser de l'eau pour remplir l'abreuvoir du gars qui lui faisait la misère. À peine 2 semaines, cet homme était devenu chrétien. Nous sommes disciples de celui qui a donné sa vie pour ses ennemis, ceux qui l'ont persécuté et qui l'ont fait souffrir. Et si vous voulez vivre l'évangile pleinement, donnez votre vie pour vos ennemis. Facile à dire, monsieur le prédicateur. Oui, c'est très facile, je vous confirme. Difficile à vivre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ça. Et alors que vous allez être les témoins dans votre oikos, cette semaine, on a voulu vous transmettre simplement une vision, celle de prêcher l'évangile radicalement à la manière du livre des Actes. Regardez les 9 occurrences de persécution, regardez leur message. Est-ce que vous voulez le prêcher tel qu'il le prêchait? Ou est-ce que vous allez simplement l'enrober d'un joli morceau de sucre, de façon à ce que ça glisse tout seul, comme les pommes de terre que vous avez mangées ce midi glissaient bien avec la salade? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez voir des gens attirés par l'évangile, non seulement prêchez radicalement, mais lorsque vous souffrirez, remettez votre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien et en agissant ainsi, acceptez la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation. J'aimerais conclure. Nous devrions apprendre à accepter que la souffrance est une amie. En fait, la souffrance authentifie votre témoignage. La souffrance est le témoin qui permettra de montrer aux gens qui vous entourent que ce que vous avez prêché, vous êtes aussi capable de le vivre par la même grâce que celle qui vous a amené à en parler. La souffrance est une amie. Elle est notre amie pour l'accomplissement de la grande mission. C'est elle qui va vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Vous connaissez ce cantique? Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. J'aime bien cette formulation. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Il est aussi la main qui, des fois, me met une bonne baffe pour que j'aille dans ses projets. Parce que souvent, on préfère nos solutions aux siennes, mais dans sa grâce, il ne nous laisse pas accomplir ce que nous aurions envie de faire. Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ceux qui manquent aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église, dit Paul. Un passage qui a été souvent très mal interprété. Je supplée dans mon corps à ce qui manque aux souffrances de Christ, dit Paul. Qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ? Rien pour ce qui concerne la justification, pour ce qui concerne l'expiation, la propitiation. Ces choses sont accomplies. Tout est accompli, dit Jésus quand il meurt à la croix. Un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, définitivement, pour tous les croyants de tous les temps, parce qu'il est souverain. C'est votre garantie. Et vous êtes dedans si vous avez cru en lui, si vous êtes scellés par le Saint-Esprit. C'est fait. Rien. Par contre, il manque beaucoup de choses aux souffrances du corps de Christ en ce qui concerne la grande mission. Et c'est la tâche qu'il nous a donné à accomplir. Proclamer son œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors est-ce que vous accepterez de souffrir pour l'objectif qui vous a été donné cette semaine, à savoir partagez l'évangile avec les 10 noms que vous avez entourés. Est-ce que vous allez accepter de souffrir pour être ce témoin dans votre oikos? Est-ce que vous allez accepter de souffrir pour retourner dans votre église et leur dire « Quand est-ce qu'on commence ?» Est-ce que vous allez accepter de souffrir pour dire aux chrétiens qui vous entourent que leur devoir, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et leur plaisir et leur passion, ça devrait être de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Vous êtes ces témoins. Est-ce que vous obéirez? Prions. Seigneur, merci pour ta